Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 continuent en ce mois de juin et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. L'Argentine assouplit les restrictions, mais les infections restent élevées alors qu'un nombre record de vaccins arrive. Après le retrait de la Colombie et de l'Argentine comme pays hôte en raison de la pandémie, la Coupe des Amériques se tiendra dans le pays de la région le plus durement frappé par le Covid, le Brésil. Le gouvernement argentin soutient aux Nations Unies une investigation sur les excès des attaques israéliennes contre Gaza. Au Pérou, Pedro Castillo et Keiko Fujimori ont débattu pour la dernière fois avant le scrutin du 6 juin. Les recettes d'exportation agricole de l'Argentine sont les plus élevées depuis près de 20 ans. Sport, Racing d'Avellaneda et Colón de Santa Fe, finalistes du championnat argentin de football. L'Argentine assouplit les restrictions après un confinement strict de 9 jours pour freiner les infections au coronavirus, bien qu'elles restent entre 25 et 35 000 par jour. Selon les autorités, l'impact des mesures devrait se refléter dans les prochains jours. Le nombre de décès s'élève en moyenne à 500 par jour et près de 80 000 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie. Parallèlement, les unités de soins intensifs ont un taux d'occupation d'environ 80%. Dans la province d'Entre Ríos, par exemple, des sources officielles ont averti qu'elles disposaient de moins de 60 lits pour les patients critiques de Covid-19. Dans ce contexte, Arnaldo Dubin, responsable des soins intensifs au sanatorium Otamendi de la ville de Buenos Aires, a alerté qu'un patient hospitalisé sur 3 meurt. Dans cette deuxième vague, préviennent les experts, les patients hospitalisés et les victimes sont plus jeunes, entre 40 et 60 ans en moyenne. En outre, les autorités sanitaires argentines ont inclus un nouveau symptôme pour détecter les cas suspects de Covid, la rhinite ou écoulement nasal, une affection fréquente pour les allergiques qui augmente avec l'arrivée du froid et qui est de plus en plus détectée chez les personnes infectées, selon des sources officielles. D'autre part, la vaccination s'accélère dans le pays avec l'arrivée de millions de doses ces derniers jours, notamment par AstraZeneca. Ces lots ont porté le nombre total de vaccins dans le pays à 17 millions, selon le ministère de la Santé, et un nouveau contrat a été signé pour la fourniture de 10 millions de doses du vaccin russe Sputnik V. La ministre de la Santé, Carla Bisotti, a quant à elle annoncé que le centre Gamaleya, qui développe cet inoculant, a approuvé le lot préparé par le laboratoire Richmond en Argentine. Cela signifie que la production locale du médicament est possible, avec des composants actifs importés de Russie, un volume initial de 500 000 doses par semaine. En outre, a révélé la fonctionnaire, un nouveau contrat est en cours de négociation pour l'acquisition de 6 millions de vaccins Sinopharm en Chine. Elle a également rappelé que les négociations se poursuivent avec la société américaine Pfizer et qu'un dialogue est engagé avec la société pharmaceutique chinoise qui développe le vaccin CanSino. Dans ce contexte, les gouvernements provinciaux, responsables des campagnes de vaccination, espèrent compléter la couverture de toutes les personnes de plus de 60 ans et des groupes à risque d'ici la mi-juin. Enfin, des sources du secteur gastronomique ont prévenu que près de 12 000 restaurants et hôtels ont fermé en Argentine depuis le début de la pandémie en mars 2020. Il s'agit de la pire crise pour le secteur depuis 4 décennies, a déclaré la chambre qui les regroupe. Cette source estime que les fermetures dues au coronavirus ont entraîné la perte de 175 000 emplois dans le domaine de la restauration. La Conmebol, l'autorité suprême du football en Amérique du Sud, a désigné le Brésil comme hôte de la Coupe des Amériques qui débutera à la mi-juin. Cette décision a été prise quelques heures après que l'Argentine se soit retirée de l'organisation de l'événement pour cause de la pandémie. Le président Alberto Fernández avait reconnu qu'accueillir la compétition internationale était un grand risque. Toutefois, le déplacement du tournoi au Brésil pour des raisons sanitaires intervient alors que le pays est le plus durement frappé par l'épidémie en Amérique latine, avec plus de 460 000 décès. Le week-end dernier, des milliers de Brésiliens ont manifesté dans les principales villes du pays pour protester contre le gouvernement du président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la pandémie, alors qu'une commission parlementaire enquête sur son administration de la crise sanitaire. Bolsonaro génocidaire, tel était l'un des slogans les plus forts, alors que le président se montre ouvertement sceptique quant à la gravité du virus et réticent à adopter toute restriction pour endiguer les contagions. Mais le chef de l'État confirmait la tenue du tournoi et assurait qu'il se déroulera avec les mêmes protocoles sanitaires que la Coupe Libertadores qui n'a pas été suspendue. Quant au Brésil, une étude de la société pharmaceutique chinoise Sinovac a révélé que les décès dus au coronavirus sont réduits à presque zéro lorsqu'au moins 70% de la population est vaccinée. Le test a été réalisé entre février et avril dans la ville de Serrana, dans l'état de São Paulo, où 75% des 45 000 habitants ont été inoculés avec deux doses du vaccin Coronavac. Il convient de mentionner que ce composé a été approuvé le 1er juin par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS avait déjà autorisé en mai un autre vaccin chinois, le Sinopharm, qui est appliqué en Argentine. Par ailleurs, le Pérou est devenu le pays qui compte le plus grand nombre de décès dus au Covid par rapport à sa population dans le monde, 500 pour 100 000 habitants. Le Paraguay a signalé que la dernière semaine de mai a été la pire de toute la pandémie, avec 752 décès. L'Uruguay entame également le mois de juin avec des chiffres négatifs. Selon le journal local El País, au cours des 60 derniers jours, une personne est morte toutes les 27 minutes à cause du Covid-19. Pendant ce temps, en Bolivie, la demande d'oxygène a augmenté de 300%, principalement en raison du taux élevé d'infection à Santa Cruz, Tarija et Cochabamba, selon le gouvernement. En Bolivie, l'oxygène n'est plus mis en bouteille à des fins industrielles, mais uniquement médicales. Ce dimanche 6 juin aura lieu le second tour de la présidentielle au Pérou, où s'affronteront le gauchiste Pedro Castillo et Keiko Fujimori de droite, après avoir tenu un dernier débat télévisé. Castillo, qui est en tête des sondages avec une faible marge, a garanti qu'il respecterait la propriété privée et l'épargne des citoyens s'il devenait président. Il a également promis que personne dans mon administration ne sera lié à des extrémistes. C'est ainsi qu'il se défend contre son rival, qui le traite de communiste et l'accuse d'encourager la lutte des classes. Keiko Fujimori, quant à elle, a reconnu qu'il y avait eu de la corruption pendant le gouvernement de son père, l'ancien président Alberto Fujimori, mais elle a affirmé que ce délit était présent dans toutes les administrations. Pendant ce temps, en Colombie, la crise politique entraînée par les manifestations qui ont débuté le 28 avril se poursuit. Selon Human Rights Watch, 63 personnes ont été tuées jusqu'à présent, principalement en raison de la répression policière. En outre, le bureau du procureur général de Colombie reconnaît qu'il y a toujours plus de 100 personnes disparues depuis le début des manifestations. Dans ce contexte, la commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a demandé au gouvernement colombien de mener une enquête indépendante sur les 14 décès enregistrés à Cali le week-end dernier. Selon des témoignages et des documents photographiques, des civils armés et cagoulés ont attaqué des manifestants dans cette ville qui avait déjà été militarisée sur ordre du président Iván Duque. Bachelet a appelé à la fin de la violence et au retour au dialogue entre les parties en conflit. Sa demande précède la mission de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui se rendra en Colombie à partir du 7 juin pour analyser les allégations d'abus et d'excès dans l'utilisation de la force. Duque, pour sa part, a assuré dans une interview au quotidien espagnol El País « Je n'accepterai pas que quelqu'un saigne à blanc la Colombie ». Il a également déclaré « En tant que président, je ne peux pas renoncer à l'utilisation de l'état d'urgence ». La vague de protestation a commencé par le rejet d'une réforme fiscale que le président a fini par abroger. Cependant, les manifestants ont continué à descendre dans la rue avec d'autres revendications, telles qu'une réforme profonde des forces de sécurité, une vaccination massive contre le Covid et un revenu universel pour les pauvres. Mardi, le comité national de grève, qui regroupe les organisations protestataires, a appelé à la levée des 40 barrages routiers dans le but de faciliter l'ouverture de négociations avec le gouvernement. Le gouvernement argentin a défendu son vote à l'ONU en faveur de la création d'une commission pour enquêter les éventuelles violations des droits de l'homme à Gaza pendant le conflit entre Israël et le Hamas. La motion, présentée devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, a été soutenue par 24 pays et rejetée par 9, avec 14 abstentions, dont la France, les Pays-Bas et le Brésil. Avant le vote, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, avait averti que les bombardements israéliens sur Gaza pouvaient être qualifiés de crimes de guerre. Plus de 250 personnes ont été tuées à Gaza par les bombardements israéliens, qui ont même détruit le siège de plusieurs médias internationaux dans la bande. L'ancienne présidente du Chili a également condamné les tirs de missiles de la milice du Hamas parce qu'ils n'ont pas fait de distinction entre les cibles militaires et civiles. La résolution de l'ONU a été rejetée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses alliés, arguant qu'elle ignorait les attaques du Hamas qui ont fait 12 morts en Israël. Le vote argentin a été jugé inconcevable par le gouvernement israélien qui a convoqué l'ambassadeur argentin Tel Aviv, Sergio Uriwari, pour qu'il s'explique. Selon le diplomate, le vote positif reflète l'intention de soutenir le rapport de Mme Bachelet. Le président argentin Alberto Fernández a soulevé le même argument devant une délégation de la DAIA, l'entité la plus importante de la communauté juive du pays. Il a affirmé que le soutien à la Commission n'impliquait en aucun cas la reconnaissance du Hamas et a souligné qu'il entretenait d'excellentes relations avec l'État d'Israël. C'est ce qu'a rapporté après la réunion le chef de la DAIA, Jorge Knoblowicz, qui entend que l'Argentine aurait dû s'abstenir lors du vote à Genève. 4 autres nations d'Amérique latine ont soutenu la création de la Commission: Cuba, le Nicaragua, le Mexique et la Bolivie. Par ailleurs, l'Argentine s'est retirée d'un procès intenté à La Haye contre le Venezuela pour crimes contre l'humanité, dans une décision qualifiée d'inquiétante par Amnesty International. Sous le gouvernement de l'ancien président Mauricio Macri, l'Argentine s'est jointe à la proposition présentée par le groupe de Lima qui réunit des nations sud-américaines qui veulent mettre fin à la présidence de Nicolás Maduro au Venezuela. Mais l'administration actuelle d'Alberto Fernández soutient les efforts du groupe de contact, qui comprend notamment le Mexique et l'Union européenne, pour une solution consensuelle à la crise politique vénézuélienne en favorisant le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Le retrait de la plainte auprès de la Cour pénale internationale, a expliqué le ministère des Affaires étrangères, répond à la désaffiliation de l'Argentine du groupe de Lima en mars dernier. Selon des sources du secteur, au cours du mois dernier, les expéditions de céréales ont généré plus de 3,5 milliards de dollars, un montant jamais enregistré depuis 2003. Cette augmentation est principalement due aux prix internationaux élevés des produits de base argentins, notamment les plus importants, le soja et ses dérivés. En mai, la tonne de soja a atteint 610 dollars, soit le prix le plus élevé depuis 2012. Selon les analystes, ce flux de devises étrangères apporte une stabilité au marché d'échange local, alors que le pays renégocie ses dettes avec le Fonds monétaire international et le Club de Paris. Dans ce dernier cas, l'échéance de 2,4 milliards de dollars a été atteinte le 31 mai et il reste maintenant 2 mois pour trouver un accord afin d'éviter le défaut de paiement. En ce qui concerne les négociations avec le FMI, la chancelière allemande Angela Merkel a exprimé son soutien au président Fernández pour conclure un accord. Dans une visioconférence, Merkel s'est jointe au soutien des gouvernements du Portugal, de l'Espagne, de la France et de l'Italie lors de la dernière tournée de Fernández en Europe. L'Argentine doit 44 milliards de dollars au fonds en raison d'un prêt demandé par le gouvernement de l'ancien président Mauricio Macri en 2018. Sport. Le Racing Club de Avellaneda et Colón de Santa Fe définiront ce vendredi 4 juin la Coupe de la Ligue de football argentin au stade Bicentenario de la ville de San Juan, capitale de la province du même nom, dans l'ouest du pays. Le Racing a atteint la finale après avoir battu Boca Juniors 4-2 au tir au but et Colón 2-0 Independiente de Avellaneda. Entre-temps, comme prévu, Sergio Agüero a confirmé son transfert au FC Barcelone où il partagera l'équipe avec Lionel Messi. Quelques jours après avoir fait ses adieux au Manchester City, où il a joué pendant une décennie, l'attaquant argentin a signé un contrat avec l'institution catalane. Après s'être présenté aux fans du Barça au Camp Nou, Agüero s'est rendu à Buenos Aires pour rejoindre l'équipe nationale argentine qui participe des qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022.
En 2021, on fête les 100 ans de la radio,
on fête les 40 ans de la libération des ondes
et le lancement de la radio numérique DAB+ partout en France.
C'est la fête de toutes les radios.
Musicales,
généralistes,
d'information. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain.
La semaine dernière, nous avons informé sur la fête de la radio qui se déroule partout en France jusqu'au 6 juin. Comme modeste contribution du fin fond de l'Amérique du Sud, je partage avec vous le reportage sur RCF Radio à Maggie Roy, membre du Radio DX Club d'Auvergne, et à Jean-Claude Claval, président du Carrefour International de la Radio.
RCF. Bonjour à tous, c'est la fête de la radio. Toute cette semaine, des événements sont organisés un peu partout en France. 2021, année du centenaire des toutes premières émissions radiophoniques, année des 40 ans de la libération des ondes. Pour l'occasion, nous recevons sur RCF une membre du Radio des X Club d'Auvergne, Maggie Roy, bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Jean-Claude Claval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, le président du Carrefour International de la Radio. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter tous les deux vos deux associations?
Alors, le Radio DX Club d'Auvergne et Francophonie n'est pas une radio, mais un club d'écouteurs des radios internationales en langue française. Il avait été fondé par Jean Piron, qui a fait de nombreuses chroniques à RCF. Ce club d'écouteurs écoutait les radios en ondes courtes, mais maintenant, on écoute également sur Internet.
Alors, donc, pouvez-vous bien nous expliquer, justement, quand on parle d'ondes courtes, en fait, c'est quoi ?
Alors, les émissions radio ont commencé effectivement, comme on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, dans les années 20, avec des émissions militaires, et l'exploration des ondes radio a permis d'explorer au début les grandes ondes et les petites ondes, s'imaginant que ce qu'on appelle les ondes courtes, eh bien, effectivement, n'était pas utilisable. Et ce sont les radioamateurs qui, justement, en explorant le champ des émissions électromagnétiques, sont aperçus que c'était des ondes plus courtes, c'est-à-dire au niveau en longueur d'onde métrique et non pas kilométrique, et que ces ondes avaient cet avantage extraordinaire, c'est de faire le tour de la Terre en se réfléchissant sur la ionosphère.
Il y a plusieurs DX Clubs, donc il y a le DX Club d'Auvergne, il y a plusieurs associations comme ça de passionnés dans toute la France.
Oui, il y a plusieurs associations. Simplement, je voudrais ajouter que DX, D c'est distance et X infini. Nous avons notre association à deux volets, c'est-à-dire la radio et la francophonie, parce que le président fondateur s'était aperçu que nombre de radios n'avaient plus de service en français. Donc il avait choisi d'avoir deux volets, radio et francophonie. Donc nous gardons des liens étroits avec les journalistes qui animent ces stations de radio. Nous écoutons les émissions, nous leur envoyons des rapports d'écoute, des commentaires sur ces émissions, des questions, des concours, et ils nous répondent par des cartes QSL, qui sont des cartes bien reçues. Nous le faisons régulièrement. Certains le font toujours en ondes courtes. Internet, ça va plus vite, bien sûr. Dans le but aussi de conforter et de garder l'usage du français, qui est menacé par la langue anglaise. Donc essayer de maintenir l'usage du français dans les relations internationales. Et les radios internationales ont besoin aussi de ce retour des auditeurs pour conforter leur position auprès de leurs radios respectives.
Donc, en conséquence, vous avez tissé de très nombreux liens. Vous recevez même parfois des journalistes étrangers. Les émissions que vous écoutez, on est là sur des thématiques très variées. On est sur des émissions d'information au sens large.
Oui, tout à fait. Il y a des émissions d'information, des émissions culturelles, des émissions musicales. Beaucoup d'émissions diversifiées. C'est un enrichissement, aussi bien pour eux que pour nous, parce que c'est une ouverture sur le monde. Et nous nous adressons à tout public, puisque nous avons des écouteurs, bon, ils sont plutôt adultes, plus ou moins âgés, mais nous avons fait l'année dernière une initiation aux écoutes radio avec des enfants, et c'était passionnant.
Alors Jean-Claude Claval, vous aussi, vous vous adressez aux enfants, hein, petits et grands-enfants. Le Carrefour International de la Radio, c'est quoi ?
Eh bien écoutez, on est parti sur le constat que la radio, c'est quand même la plus grande invention après l'imprimerie. Donc, c'est quelque chose qui mérite qu'on retrace son évolution et son patrimoine. Et notre association, parmi tant d'autres en France d'ailleurs, et un certain nombre de petits musées qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on retrace un petit peu l'évolution du matériel et des modes de transmission qui, depuis les années 20, puisque cette année, c'est le centenaire de la première émission à la Tour Eiffel, eh bien, depuis les années 20, ce vecteur de communication a été le plus grand vecteur de diffusion de la culture populaire dans nos territoires. Donc voilà un peu notre ambition. D'abord, essayer de conserver ce patrimoine, parce qu'on s'aperçoit qu'il part beaucoup par différentes ventes à l'étranger. Et d'autre part, essayer de convaincre les pouvoirs publics à créer, éventuellement dans notre région, un conservatoire de la communication qui permettrait de retracer cette aventure fantastique.
Alors comment vous arrivez justement à retracer la liste des passionnés et le matériel déjà disponible sur notre région ?
Alors c'est une aventure très intéressante parce qu'on côtoie en fait la société, l'évolution sociologique. Je vais prendre l'exemple d'un artisan clermontois, Jules Chantagry, qui a appris la radio à la guerre donc de 14, est revenu à Clermont-Ferrand, s'est installé donc 33 rue Pascal comme électricien. En 1926, il se déclare radioélectricien parce qu'il commence à vendre et fabriquer des postes, et il durera ainsi jusqu'à la fin des années 30, où il passera la main à tout un foisonnement de commerces qui vont diffuser la radio puis la télévision dans la métropole clermontoise.
Aujourd'hui, vous avez tout un inventaire de matériel qui doit être assez impressionnant, surtout si on remonte à des dizaines et des dizaines d'années. Vous pourriez nous donner un exemple un petit peu de quelque chose qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui et qui aujourd'hui vaut très cher.
Alors en fait, le matériel radio, hélas, ne vaut pas très cher, ce qui fait qu'on le retrouve beaucoup dans les décharges. C'est bien triste, c'est bien pour ça que nous collectons tout ce que nous pouvons afin de constituer justement une continuité de présentation de l'évolution de ce matériel.
Et parfois, ça vous fait mal de voir parfois que les gens ont tendance à délaisser parfois des objets rares aussi?
Oui, alors certes, ces objets sont rares. Ils sont surtout rares parce qu'ils évoquent une évolution technologique ou, je dirais, culturelle, en ce sens que le mobilier a considérablement changé depuis les années 20 jusqu'à nos jours. Mais la radio reste présente. Chacun de nous écoute la radio en voiture. Nos petits téléphones portables utilisent beaucoup les ondes électromagnétiques, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est au cœur de nos sociétés. Et pourtant, on a le sentiment que c'est un peu en filigrane. On oublie ce moyen qui pourtant est fondamental pour la mondialisation et la vie moderne.
Voilà, en tout cas, comptez sur moi pour appuyer tous les deux votre passion. J'aimerais savoir, justement, vous êtes tous les deux passionnés. Qu'est-ce que représente la radio pour vous? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est une image? À quoi vous le rattachez, Maguiroy?
Bien sûr, c'est déjà un souvenir. Quand on était enfant, on écoutait les radios. Mais c'est aussi un média incontournable, même aujourd'hui, qui sait s'adapter à l'évolution des technologies. Et c'est un moyen d'évasion aussi pour certaines personnes qui sont seules. C'est un moyen d'information et c'est le plaisir de découvrir autre chose et puis de participer à des manifestations en lien avec la radio pour nous. Mais la radio, c'est aller vers l'autre.
C'est-à-dire suite à la crise sanitaire qu'on vient de vivre, pour vous, c'était impossible d'avoir ces journées sans radio.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et la radio a joué un rôle primordial, on le sait, dans la crise et dans le confinement, pour les gens isolés et pour informer en temps réel. Et justement, le fait d'avoir cette information qui nous venait des pays que nous écoutons, comme le Taïwan, la Corée ou l'Argentine, c'est un autre regard sur l'actualité que celui qu'on a chez nous.
Jean-Claude Claval.
Écoutez, la radio reste un élément majeur. On parlait de situation de crise il y a un instant. Eh bien, il y a eu récemment donc une tempête majeure dans une île qui a privé cette île de toute source d'énergie. Eh bien, en ce cas-là, la radio, avec une simple pile, permet de recevoir des informations. Donc, c'est un moyen qui reste et restera sans doute longtemps encore un moyen de sauvegarde en situation extrême.
Vous êtes en lien avec de nombreux passionnés, des collectionneurs aussi. Il y a peut-être aussi ce souci parfois de la transmission de l'héritage. Est-ce que vous arrivez aussi à derrière sensibiliser la nouvelle génération à la protection de ce patrimoine?
Alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez présent dans les manifestations publiques. On a du mal justement, parce qu'actuellement on a des problèmes de locaux, à trouver des lieux de présentation qui permettent à la population d'être confrontée avec l'évolution de ces appareils. Par contre, chaque fois qu'on présente des appareils dans des lieux un peu insolites, et là on va le faire pendant toute la semaine dans différents commerces clermontois, dont Electrodépôt, TSD, et un certain nombre de petits magasins, dont EGQ, rue des Jacobins, enfin tous ceux qui ont bien voulu nous prêter leur vitrine, on s'aperçoit que les gens sont interpellés par le faciès de ces appareils et souvent la qualité sonore qui est la leur.
Alors vous participez tous les deux régulièrement à la journée mondiale de la radio, c'est au mois de février. Alors là, c'est la fête de la radio, couplée en plus au déconfinement, donc on imagine les possibilités qui s'offrent enfin à nous. Qu'est-ce que vous avez concocté du coup à l'occasion de cette semaine spéciale, Maguiroy?
Alors ça a été assez difficile parce que nous ne savions pas si nous pourrions faire en distanciel ou en présentiel. Donc nous avons concocté, nous sommes 3-4 associations qui nous sommes groupées en un collectif pour essayer de préparer des manifestations. Donc il y aura la présentation des postes de radio, ce que dit Jean-Claude. Il y aura une conférence en ligne du président du musée de la radio de Monistrol sur Loire qui sera sur YouTube et Facebook. Il y aura des animations avec des radios amateurs une visite de musée et puis une diffusion sur une autre radio, diffusion pour notre part de petites pastilles audio qui présentent des émissions des radios étrangères que nous écoutons.
Le message qui est pour vous important à faire passer au cours de cette semaine, c'est quoi ? Est-ce que c'est plus un message de dire attention, la technologie évolue beaucoup, mais il y a aussi tout ce qui touche à l'information, à la protection des journalistes, à l'étranger, à la démocratie. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important à faire ressortir au cours de cette semaine spéciale ?
La radio est un grand révélateur de la vie socioculturelle moderne, avec effectivement ce que vous avez dit, les composantes industrielles, commerciales, les relations entre la population et les journalistes, et l'ouverture en fait formidable, quand même grâce à vous d'ailleurs, entre autres, de ce moyen de communication pour la diffusion des idées, des différents modes de pensée. Donc c'est un outil dont la souplesse, à mon avis, n'est pas près d'être égalée.
Le programme complet donc, de vos manifestations, on peut le retrouver sur Internet. Alors vous avez un site Internet radiodx63.fr.
Oui, les manifestations sont sur la page d'accueil. Également, on peut le retrouver dans des affiches qu'on va distribuer, mais c'est difficile de mobiliser le public puisque les conditions sont encore particulières. Et puis on a eu un temps très restreint puisque nous, on a été informés il y a un mois et demi.
Oui, ça a été très tardif. Oui. Et donc notre programme Auvergne-Rhône-Alpes se trouve aussi sur le site national, donc fêtesdelaradio.com.
Eh bien, vive la radio, et on a été très heureux de vous recevoir tous les deux en studio. Merci à vous, Maggie Roy, Jean-Claude Claval. Merci d'avoir été nos deux invités à l'occasion de ce lancement de la fête de la radio 2021.
En 2021, on fête les 100 ans de la radio.
On fête les 40 ans de la libération des ondes.
Et le lancement de la radio numérique DAB+, partout en France.
C'est la fête de toutes les radios.
Musicale.
Généraliste.
D'information. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.